Chapitre 52. La lionne blessée. À partir de cette heure, Carmélite, ainsi qu'elle l'avait dit, regarda cette maison comme son tombeau et son jardin comme ce cimetière rose des Carmélites dont elle portait bizarrement le nom. Elle comprit Lavallière qui avait expié ses 3 années de lumière et de soleil par 30 années d'ombre au fond d'un cloître. Elle comprit la Madeleine qui, n'osant lever ses yeux jusqu'au front du Christ, lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Son avenir lui parut résumé dans ces 2 mots, écrits en lettres noires sur une page blanche, « pleurer et mourir ». Et en effet, rien désormais ne pouvait la rattacher au bien de ce monde, et elle se voyait passer dans la vie comme le fantôme d'elle-même. Elle resta 3 quarts d'heure plongée dans ses sombres méditations, c'est-à-dire le temps qu'il fallut au Breton pour conduire Camille, attendre le passage de la diligence et revenir. Ces 3 quarts d'heure furent des siècles pour Carmélite. Lorsque Colomban rentra, au lieu de la jeune fille qu'il avait quittée à son départ, il retrouva, courbée sous la prostration la plus désolante, une sorte de spectre à l'attitude morne, aux couleurs éteintes, aux yeux hagards. Mais il ne comprit rien, le candide Colomban. Il crut que ce désespoir n'avait d'autre cause que le départ de Camille, et il essaya de consoler la pauvre délaissée en lui parlant du retour. Ce fut seulement alors qu'il comprit, à la façon dont la jeune fille secouait la tête, que le mal venait d'une autre source, et qu'il commença son rôle d'ami dévoué en l'interrogeant fraternellement. Carmélite ne répondit point. Muette à ses regards, sourde à ses paroles, elle portait en elle une douleur si immense qu'elle semblait craindre d'en accabler son ami. La première journée s'écoula donc ainsi. Colomban, en voyant la jeune fille repousser ses consolations comme un enfant malade qui repousse du doigt une potion bienfaisante, Colomban attribua à l'exaspération nerveuse dans laquelle il avait retrouvé Carmélite cette tristesse qu'il crut accidentelle et passagère, et remit un interrogatoire plus sérieux au lendemain et au jour suivant. Mais le lendemain et les jours suivants, la mélancolie de Carmélite fut la même, et la jeune fille continua de se refuser à toute confidence. Le temps s'écoula donc, sans révéler aux Bretons les causes mystérieuses de ce désespoir intime. Les heures de la journée étaient distribuées avec une régularité invariable. Tous les matins, dès le mois de novembre, Colomban, malgré la pluie, la boue, le vent, la neige, le froid, partait à pied du Bas-Meudon entre 7 et 8 heures pour aller à Paris, à l'école de droit, assister au cours qui commençait à 9h30. Ce cours finissait à 10h30, Colomban était donc de retour à midi précis. On déjeunait, puis une heure après, chacun de son côté prenait son travail, et l'on ne se revoyait qu'à 6 heures, c'est-à-dire au moment du dîner. On passait le reste de la soirée ensemble, soit à lire, soit à faire de la musique, rarement à causer. La causerie était dangereuse. Le Breton sentait bien qu'il était de son devoir d'interroger Carmélite, mais il voyait la résistance de la jeune fille, et sans fuir les occasions d'amener la conversation sur ce terrain, il ne les cherchait plus, agissant comme fait un médecin intelligent dans une maladie organique, c'est-à-dire attendant plus du temps que de la science, plus de Dieu que du médecin. Mais ce qui étonnait Colomban, c'était les progrès immenses que Carmélite avait faits en musique depuis le départ de Camille. On eût dit qu'un sens musical nouveau, inconnu, presque terrible, s'était développé en elle. Si elle exécutait seulement, son piano avait une voix, une âme. Il pleurait, il gémissait, il sanglotait. Si elle chantait, sa voix avait pris, surtout dans les notes élevées, une étendue, un sentiment, une amertume douloureuse qui faisait de cette voix une voix d'ange désolé, regrettant le ciel avec des accents humains. Les dimanches étaient consacrés particulièrement à la musique et à la promenade. On les passait ensemble sans s'éloigner 1 quart d'heure l'un de l'autre. Quand le temps était trop mauvais pour que l'on pût sortir, c'était dans le pavillon de Colomban qu'on se réunissait. Le Breton s'était d'abord étonné de ce choix de Carmélite, de cette préférence pour sa chambre lorsqu'il y avait un salon commun. Mais en véritable juriste français qui accepte les lois provisoires comme définitives, il avait accepté ce caprice de Carmélite sans s'en rendre compte autrement. Au reste, les prétextes n'avaient point manqué à Carmélite pour prouver à Colomban que sa chambre était plus favorable à leur causerie qu'aucune autre. Un jour, c'était le piano de Carmélite qui avait baissé d'un ton, et le piano de Colomban allait mieux à sa voix. Un autre jour, c'était la cheminée du salon qui fumait, et la cheminée de Colomban était excellente. Un autre jour, c'était un livre sérieux dont on avait besoin pour vérifier un fait, une date, et les livres sérieux ne se trouvaient que dans la bibliothèque de Colomban. Enfin, il y avait mille raisons pour qu'on se réunît dans la chambre de Colomban et non ailleurs, et la preuve, c'est que l'on s'y réunissait. Plusieurs semaines passèrent ainsi. On ne recevait pas de lettres de Camille, et Colomban s'aperçut avec étonnement que jamais Carmélite ne s'informait à Nanette si des lettres étaient arrivées. Pourtant, vers la fin de décembre, la première lettre arriva. Colomban, tout joyeux, l'apporta à Carmélite. Elle était à son piano. « Une lettre de Camille !» s'écria Colomban en entrant dans la chambre. Mais sans lever ses mains et au-dessus des touches, « Lisez, mon ami, » dit Carmélite. Colomban avait l'habitude d'obéir, sans résistance, au désir de la jeune fille. Il décacheta la lettre et lut. La lettre racontait toutes les discussions que Camille avait eues, non pas avec son père, mais avec ses tantes, ses grand-tantes et tout le reste de la famille, qui s'était montré constamment opposé à son dessein, et qui, à l'heure où il écrivait ces lignes, s'y opposait plus que jamais. À cela près, la lettre était pleine de la plus vive tendresse pour Carmélite, de la plus profonde reconnaissance pour Colomban. Il y avait même, dans le ton général de l'épître, une sorte de mélancolie qui n'était pas habituelle à l'américain, et que le breton mettait sur le compte de son amour entravé par le dissentiment de la famille et la lutte qu'il soutenait. Mais ce qui surprit Colomban, ce fut la façon plus que froide dont Carmélite reçut cette lettre de son futur époux. Il n'osa lui faire aucune remarque sur le sujet, mais le soir, resté seul, il se demanda à part lui la cause de cette froideur évidente, et plus il chercha dans les mystérieuses profondeurs du cœur de la femme, plus il s'éloigna de la réalité. Vers la fin de janvier, une seconde lettre de Camille arriva, lettre pleine de tendresse passionnée. Les luttes continuaient toujours au sein de la famille Rozan. Camille avait cependant entraîné quelques parents dans son projet. Il en avait attendri quelques autres. Enfin, il avait gagné un peu de terrain. On était donc en progrès. Cette seconde lettre fut reçue par Carmélite avec la même indifférence que la première. Elle lut toutes ces lignes brûlantes, sans être émue le moins du monde. Arrivée à la dernière, elle ferma la lettre et la déposa sur la cheminée, sans affectation, mais avec un mépris glacial. Colomban fut bien tenté de profiter de cette circonstance pour l'interroger, mais il la trouva, au-delà de cette apparente froideur, si fiévreuse, si fébrile, si agitée, qu'il eut peur de la courber comme la sensitive rien qu'en la touchant. Il renonça donc pour le moment à lui faire aucune question et se contenta de chercher, mais inutilement, comme il le faisait depuis 3 mois, les causes de cette inexplicable maladivité. 1 an s'écoula ainsi. Colomban, pour ne pas laisser la jeune fille seule, écrivit à son père qu'un devoir le retenait à Paris et qu'il n'aurait point le bonheur d'aller le visiter pendant les vacances de cette année. Au reste, cette année, au lieu de se traîner, lente comme une année d'absence, s'était écoulée avec une rapidité extraordinaire, dans une sérénité ineffable de la part de Colomban, dans une admiration passionnée et un remords constant de la part de Carmélite. Un soir qu'ils étaient réunis comme d'habitude chez Colomban, c'était le 23 du mois d'octobre, juste le jour anniversaire du départ de Camille, Colomban émit cette opinion, purement et simplement appuyée sur la loyauté qu'il supposait au créole, que celui-ci, ayant depuis 1 mois ses 25 ans accomplis, allait incontestablement revenir pour se marier avec ou sans le consentement de son père. Carmélite alors secoua la tête de cette façon significative qui avait déjà plusieurs fois alarmé le breton, sans qu'il en comprît toutefois le sens positif, ce qui l'eût alarmé bien davantage. Et cette fois, il résolut de demander à la jeune fille une explication. « Carmélite, lui dit-il, il y a aujourd'hui 1 an qu'aux assurances que je vous donnais du retour prochain de Camille, vous avez tristement secoué la tête, comme vous le faites en ce moment. J'ai inutilement cherché la cause de cette désapprobation tacite, et ne pouvant la comprendre, je vous prie de me la dire loyalement, comme je vous la demande. Tout est sérieux avec vous, Colomban, répondit Carmélite, et comme vous êtes la raison suprême, vous voulez que la raison de toutes choses vienne en quelque sorte à vous. Eh bien, ce mouvement de tête, mon ami, est une forme de mon incrédulité. Je n'ai pas votre adorable confiance, moi, n'ayant pas votre perfection presque divine. Du moment où Camille est partie, j'ai douté de son retour. Un an s'est écoulé, j'en doute plus que jamais. Oh, vous vous trompez, Carmélite, s'écria Colomban. Vous ne connaissez donc pas les préjugés dont sont assaillies les familles américaines. Le seul empêchement au retour de Camille est là, soyez-en sûr. Camille combat ses préjugés. Sous une apparence frivole, il a un cœur droit et honnête, et je regrette, Carmélite, qu'ayant eu l'occasion de l'apprécier, il ne vous soit pas resté de sa bonne foi une certitude inébranlable. Carmélite soupira. C'est vous, dit-elle, Colomban, qui êtes un cœur d'or, c'est vous qui voyez le bien partout, parce que vous l'avez en vous. Vous me dites que j'ai eu l'occasion d'apprécier Camille. Oui, mon ami, je l'ai apprécié, et c'est à cause de cela que je vous redis, Camille ne reviendra pas. Mais qui peut donc vous avoir donné cette injurieuse croyance, Carmélite? Notre vie de 3 mois, pendant laquelle je l'ai compris sans l'interroger, et pendant laquelle je l'ai appris sans l'étudier. On vit 20 ans avec un ami sans que cet ami vous connaisse, tandis qu'avec une femme, il est certains moments où l'on se révèle, certaines heures où l'on se trahit. L'abandon qui résulte nécessairement de l'intimité nous force à déposer le masque. C'est ainsi que j'ai surpris le véritable caractère de Camille. Je ne veux pas l'accabler en son absence et en votre présence, mais il résulte pour moi de cette connaissance que j'ai acquise une froideur qui s'est changée d'abord en dégoût, puis peu à peu a tourné en mépris. Que Camille m'aime, d'une certaine façon, je ne le conteste pas, mais il a pour moi un peu de cette amitié craintive du mauvais écolier pour son professeur. Je le domine plus que je ne le touche, et sa vanité est plus satisfaite de me posséder que son amour n'en est heureux. Je ne nie pas qu'au moment de me quitter, dans l'ébranlement du départ, dans la secousse de la séparation, il n'ait eu l'intention de revenir. Habitué à l'amour facile de certaines femmes, il s'est étonné, irrité même secrètement, de rencontrer en moi un obstacle de tous les jours, une résistance de tous les moments. Il m'a surprise, mais ne m'a jamais possédée, et cette lutte qu'il soutient à 2000 lieues de nous le tient au fond toujours en haleine. Mais croyez-moi, mon ami, je suis pour Camille le prix d'une victoire, voilà tout, et non point le but d'un attachement sérieux. Colomban regarda la jeune fille avec une profonde tristesse. « Carmélite, dit-il, vous n'aimez plus Camille ?»« Je ne l'ai jamais aimée, répondit-elle fièrement, comme si ces 2 mots eussent dû la justifier. « Oh, ne dites pas cela, Carmélite, » fit le Breton avec douceur. « Devant Dieu, reprit solennellement Carmélite, je dis la vérité, Colomban, je n'ai jamais aimé Camille. » « Et cependant, reprit en hésitant le jeune homme, « et cependant j'ai été vaincu, c'est cela que vous voulez dire, n'est-ce pas, mon ami ? Eh bien oui, j'ai été vaincu, non par ma faiblesse à moi, non par la force de Camille, je l'ai été par une puissance inconnue, plus grande que la mienne, par un pouvoir mystérieux, plus grand que le sien. Il n'a fait nul effort pour amener ma chute, ainsi qu'il vous l'a dit, afin de se disculper d'avoir trahi son serment, mais il a froidement attendu l'occasion, et c'est cela que je lui reproche. » C'est cela qui me fait monter au front, non pas le rouge de la pudeur, mais la flamme de la honte, de la colère et du mépris. « Oh, taisez-vous, Carmélite, » dit Colomban, en mettant la main sur ses yeux, comme si ses yeux fermés, l'empêchant de voir la jeune fille, eussent empêché ses oreilles de l'entendre. « Et, » continua Carmélite, emporté sur la voix glissante, « voulez-vous que je vous dise toute la vérité, Colomban ?»« Oh, non, non, je ne veux plus rien entendre, » s'écria le Breton. « Pourquoi, alors, m'avez-vous interrogé ?» demanda-t-elle, presque menaçante. « Parlez donc. »« Eh bien, vous connaîtrez ma douleur dans toute son étendue, ma faute, dans toute sa profondeur, quand vous saurez que cette nuit du triomphe de Camille, ce n'était point à Camille que je cédais. »« Mais à qui donc ?» demanda Colomban. à un fantôme de mon imagination, à un rêve de mon cœur, Camille n'a été que le délégué du malheur, que le prête-nom de la fatalité. Colomban leva sur Carmélite son regard limpide comme la lumière. « Carmélite, dit-il, je ne vous comprends pas. » « Faux, Colomban, reprit-elle, c'était une belle nuit, une heureuse nuit que celle où nous avons été déterrer le rosier au pied du tombeau de la pauvre Lavallière. » Et se levant lentement, elle sortit du pavillon et remonta chez elle, tandis que Colomban la suivait des yeux, presque ébloui par le premier rayon de lumière qui descendait jusqu'à son cœur et murmurait « Oh, mon Dieu, elle eût donc pu m'aimer, puisqu'elle n'aimait point Camille !»